Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 16 mai 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 161 du podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, premièrement, je veux revenir sur les résultats financiers de Walt Disney. Ça, c'est sorti la semaine dernière. C'est une des actions de mon portefeuille, donc je trouve ça important d'en parler. L'autre chose aussi, je veux vous parler d'un achat que j'ai fait aujourd'hui même pour mon portefeuille. Donc encore là, ça c'est très rare que ça arrive, là, que j'achète la journée même du podcast. Donc tant mieux pour vous autres. Sinon, pour l'épisode d'aujourd'hui, je voulais surtout vous partager trois conseils que je donnerais à la version de moi-même si je pouvais me rencontrer v'là 10 ans quand j'avais 23 ans. Tu sais, qu'est-ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise pour m'aider du côté de mes décisions financières. Donc, c'est un peu ça l'idée du podcast aujourd'hui. Je vais commencer rapidement avec les données économiques qui ont été annoncées ce matin. Donc, première chose, c'est du côté de l'indice des prix à la consommation pour le mois d'avril au Canada. Donc, on a pu voir que l'IPC y a augmenté de 4,4% sur une période de 12 mois. Et là, en mars, je vous rappelle qu'on était à 4,3%. Donc, l'IPC annuel, si vous voulez, a légèrement remonté le mois passé. Et l'inflation à 4,4%, c'est également au-dessus des attentes des économistes. De l'autre côté, il y avait prévu une baisse de l'inflation à 4,1% au Canada pour le mois d'avril. Donc, pour la première fois depuis juin 2022, c'est la première fois que l'inflation globale réaccélère, dans le sens que c'est la première fois que d'un mois à l'autre, si on regarde l'IPC sur une période de 12 mois, c'est la première fois que ça réaugmente depuis juin 2022. Et ce qui a le plus contribué à l'augmentation de l'IPC, c'est la hausse du prix de l'essence et aussi du prix des loyers. Donc ça, ça a été deux éléments qui ont boosté l'IPC du mois d'avril. Et moi, je l'ai déjà dit, mais je pense que l'inflation va être pas mal plus persistante que le monde pense, dans le sens que même s'il y a une récession, l'inflation va persister parce que le gouvernement, il va continuer d'imprimer du cash pour donner des aides financières à un peu tout le monde. La Banque du Canada, ça se peut que si on a un ralentissement économique, elle devienne un peu plus nerveuse puis qu'elle décide de finalement redescendre les taux d'intérêt, peut-être pas à 0,5%, mais même reculer de 50 points de base, 25 points de base, puis d'assouplir sa politique monétaire, ça va créer une pression inflationniste. Donc c'est sûr que, de mon bord, l'inflation actuelle à 4,4%, c'est pas nécessairement une surprise, je m'attendais pas à ça non plus, mais je pense que ça va faire réfléchir la Banque du Canada par rapport au taux directeur. Donc, ils n'ont pas fait de hausse de ce côté-là depuis, ça fait à peu près 2-3 mois. Et là, ils vont peut-être se poser la question si ça vaut la peine de faire une autre augmentation de 25 points de base. La prochaine rencontre pour cette décision-là vis-à-vis les taux d'intérêt, ça va être annoncé le 7 juin prochain. Donc, on va voir un peu qu'est-ce que pense la Banque du Canada avec les données qu'on a obtenues ce matin. Et pour ce qui est des États-Unis, les ventes au détail ont légèrement augmenté. On parle de 0,4% d'un mois à l'autre. Et ça, évidemment, ça concerne le mois d'avril. Par contre, le consensus des économistes était une hausse de 0,8%. Donc, il y a un petit décalage entre les deux et clairement, les données sont en dessous des attentes. Et je vous rappelle également que les ventes au détail avaient baissé de 0,7% en mars. Donc, il y a vraiment, c'est pas une forte tendance à la hausse du côté des ventes au détail. La consommation semble ralentir. Et comme pour venir renforcer ce point-là, les résultats financiers de Home Depot ont été dévoilés ce matin. Et c'est là qu'on a pu constater une baisse du côté du chiffre d'affaires par rapport au même trimestre l'année passée. Donc, les ventes ont diminué, le nombre de transactions, chaque achat est moindre dans les magasins de Home Depot. Donc, De leur côté, ils ont également réduit leur projection financière pour l'année fiscale 2023. Et pour moi, c'est un indicateur comme de quoi que les consommateurs commencent à moins dépenser. Donc, ils regardent un peu plus leurs achats. Du côté Home Depot, peut-être que les gens repoussent leur projet de rénovation. Mais au final, tout ça a mené la baisse des ventes au détail. Bien, ça va finir par se refléter dans les earnings des entreprises cotées en bourse. D'ailleurs, la semaine passée, c'était les résultats financiers de Walt Disney. Et c'est là qu'on a appris que le service de streaming Disney+, eux autres, ils ont perdu 4 millions d'abonnés au dernier trimestre. Donc, 4 millions d'abonnés en 3 mois, c'est pas rien. Et pour ce qui est des pertes monétaires du département Disney+, on parle d'une perte de 659 millions de dollars pour Disney+. Mais reste que, tu sais, ça a l'air impressionnant ces chiffres-là, mais c'est la perte la moins élevée pour le département de streaming depuis environ un an et demi. Fait que c'est sûr que si tu compares avec le dernier trimestre de 2022, les pertes de Disney+ sont quand même 26% plus basses. Donc on peut voir qu'il y a un effort pour réduire les coûts. Il y a eu des layoffs, des mises à pied. Il y a également une baisse des dépenses pour la création de contenu. On essaye à l'interne de rendre Disney+ rentable. De l'autre côté, si on regarde juste les parcs d'attractions Walt Disney World, eux autres, ils affichent encore des chiffres incroyables. T'sais, on parle d'une augmentation des revenus de 17%. Donc, en termes de chiffres, là, on atteint 7,8 milliards de dollars en 3 mois. Donc, c'est pas du screening. Par contre, visiblement, les investisseurs se sont plus concentrés sur la perte d'abonnement de Disney+. Suite aux résultats financiers, le prix des actions de Disney ont droppé de 9% en une journée. De mon bord, je suis actionnaire de Disney depuis le crash de 2020, mais je vous cacherai pas que la semaine passée, même cette semaine, j'ai pas encore grossi ma position dans le titre. Un, c'est déjà une position importante pour mon portefeuille. Si je regarde concrètement, là, ça représente approximativement 8% de tout mon portefeuille. Et de deux, je pense qu'il risque d'avoir encore des mauvais résultats financiers dans les prochains trimestres. Tu sais, s'il y a une récession, Walt Disney World, ça se peut qu'il y ait du monde qui remette ça une autre fois. Donc, je ne suis pas super pressé de racheter des actions de Disney, mais je n'ai pas vendu non plus. C'est-à-dire que je reste encore confiant envers la compagnie de Walt Disney. Par contre, pour le moment, j'ai toujours pas racheté d'actions pour venir grossir cette position-là. Et comme je l'ai dit au début de l'épisode, moi ce matin, j'ai fait un nouvel achat pour mon portefeuille à long terme bien évidemment. J'ai acheté des actions de Suncor, qui est une compagnie pétrolière canadienne qui est basée à Calgary. Et mon prix d'achat, c'est de 38,20 $. Évidemment, c'est en dollars canadiens parce que j'ai acheté le titre sur le TSX, la bourse de Toronto. Et au prix que j'ai payé les actions de Suncor, on parle d'un rendement des dividendes d'environ 5,3% par année. Le ratio de distribution des dividendes est très sain aussi. On parle d'autour de 30% des bénéfices. Donc, on n'est pas en train de dilapider les profits pour les donner aux actionnaires. Et du côté des ratios financiers de l'entreprise, le niveau d'endettement et le ratio du fonds de roulement sont très corrects, donc il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Bref, Enbridge et Suncor, c'est les deux actions qui me donnent de l'exposure au secteur de l'énergie. C'est ces compagnies-là, la plupart du temps, la valeur de l'entreprise est quand même étroitement liée au prix du baril de pétrole brut, le gaz naturel, tout ça. Et aujourd'hui, justement, le prix du baril WTI, il est autour de 71 $ US. Donc, conséquemment, le prix des actions de Suncor est relativement bas. Au fait, si on regarde au niveau du graphique, on est retourné à un niveau de support qui date d'octobre 2022. Tout ça pour vous dire qu'avec la récente baisse du côté du prix du baril de pétrole brut et la récession qui est déjà partiellement anticipée par les investisseurs, la compagnie Suncor, elle me paraît sous-évaluée par le marché actuellement. Et si le prix de l'action continue de dropper Il y a de bonnes chances que je vienne encore grossir ma position dans ce titre-là. Et juste une petite parenthèse, c'est sûr que ceux qui sont inscrits à mon infolettre, vous avez toujours une petite longueur d'avance parce que à chaque mois, je vous partage trois actions qui sont sous mon radar. Et justement, dans l'infolettre qui est sortie jeudi passé, ben Suncor faisait partie de la liste. Encore là, il faut savoir que ce n'est pas des recommandations d'achat, mais disons que ça vous donne une bonne idée des actions que je pourrais potentiellement bientôt ajouter à mon portefeuille, comme ça a été le cas avec Suncor ce matin. Et pour terminer l'épisode, je veux vous partager trois conseils que je me donnerais à moi-même si je pouvais me revoir à 23 ans. Et là, évidemment, je ne parle pas de reculer dans le passé pour me dire d'acheter des actions de Nvidia à 3$ pour profiter d'un rendement de genre 9000% en 10 ans. C'est pas vraiment ça l'idée, là. Sinon c'est sûr que ça serait facile. Mais c'est plus des conseils pour mes décisions financières dans ma vie en général. Tu sais, dans début vingtaine, t'as pas nécessairement la maturité puis les connaissances que t'as rendues à 30 quelques années. Donc c'est cet apprentissage-là que j'ai eu. J'aimerais transmettre ça à du monde qui ont cet âge-là justement dans début vingtaine. Et la première chose que je me dirais, c'est arrête de mettre de l'argent sur ta voiture. Parce que moi, à cet âge-là, début vingtaine, comme je vous dis, j'avais une BMW usagée évidemment. Mais tu sais, j'ai mis une suspension rabaissée, j'ai installé des briques ventilées, j'ai mis un paquet d'affaires sur cette voiture-là. Puis tu sais, au final, c'était quand même une BMW usagée. Donc, c'était tout le temps au garage. Là, j'allais là peut-être une fois ou deux, trois mois. Fait que ça m'a coûté énormément d'argent en termes d'amélioration, d'upgrade, mais aussi juste d'entretien. T'sais, une voiture comme ça, ça coûte plus cher d'huile, ça coûte plus cher de pneus, ça coûte plus cher de tout. Fait que c'est sûr que j'ai dépensé une couple de mille là-dessus et c'est de l'argent que j'aurais pu investir dans mon plus jeune âge. Puis, tu sais, l'air de rien, 10 ans de rendement, ça fait une énorme différence. Donc, au-delà de l'argent que j'ai mis pour acheter la voiture, tout l'argent qui est venu autour de ça, tu sais, le gaz, l'assurance, tout le kit, c'est sûr que je me dirais, évite de mettre l'argent là-dessus. Encore aujourd'hui, j'ai plus d'argent que j'en avais v'là 10 ans. Évidemment, je suis plus dans la même situation financière, mais encore là, moi, je roule aujourd'hui avec une Jetta 2022. Donc, on est loin du char sport, on est loin de la BMW, de la Mercedes, de la Porsche, Audi et compagnie. C'est pas que je peux pas me payer mieux, c'est juste que c'est vraiment c'est un actif qui perd de la valeur dans le temps. Puis, tu sais, oui, je peux la mettre sur ma compagnie, mais ça reste une dépense. Ça vient justement avec un paquet de dépenses complémentaires. Un char sport, puis des upgrades sur une voiture, tu vas jamais rentabiliser ça dans le temps. Ça veut pas dire que j'aurai jamais de transport. Ça veut pas dire que j'en veux pas non plus. C'est juste que tant qu'à avoir une BM ou une Mercedes, je préfère me contenter d'une petite Jetta, de toute l'économie que je fais, toutes les dépenses que je fais pas par rapport à ma voiture. J'investis ça, que ce soit du côté personnel ou de l'entreprise. Puis ultimement, dans 10, 15, 20 ans, ben là, je l'aurai, ma McLaren ou n'importe quel char sport que je veux me payer. Donc, c'est un peu ma mentalité par rapport à ça. Puis c'est sûr que plus t'es jeune, plus c'est tentant de justement avoir une grosse voiture, surtout si c'est quelque chose qui t'intéresse. Donc, c'est sûr que ça serait le premier conseil que je me donnerais. Je dirais, arrête de mettre de l'argent là-dedans, ça vaut pas la peine. Deuxième affaire que je dirais en version de moi-même à 22, 23 ans, c'est essaye pas de devenir riche rapidement avec la bourse. Ça marche pas, c'est pas fait pour ça, mais tu sais, je pense qu'on est tous un peu de même quand on commence quand on découvre les actions puis les marchés boursiers, parce qu'on voit le potentiel, on voit le prix de certaines actions qui grimpent des 10, 20, 30% dans une seule journée, tu vois des rendements annuels de compagnies qui ont déclenché, fait que quand tu vois ça, tu veux tout le temps essayer de faire partie de ça, puis pas tranquillement, pas vite, là, pas des rendements de 10% par année, puis tu veux pas ce type de placement-là, tu veux pas bâtir de quoi pour le long terme, t'es très court terme, tu veux de l'argent rapidement, surtout si t'as pas beaucoup d'argent, puis que t'aurais besoin d'une passe de cash, ramasser un 5-10 000 vite, vite, ben ça devient tentant d'essayer de faire des moves très court terme. Puis, tu sais, moi, à ce moment-là, j'avais en tête de réussir à devenir actionnaire de petites compagnies avant, justement, qu'ils se mettent au monde puis qu'ils commencent à jumper. Fait que, de mon côté, j'achetais des actions de compagnies minières en phase d'exploration. Ils minaient rien encore, là. Ils espéraient trouver de l'or ou telle affaire à telle place. J'investissais aussi dans des compagnies pharmaceutiques avant en attente plus de l'approbation de la FDA. Donc, tout ça dans le but de ramasser des actions à genre 30 cents pour que finalement, ils montent du jour au lendemain à 4-5$ puis multiplier par 10, 15, 20 fois ma mise initiale. Moi, c'est ça que je voulais. Je voulais des coups de circuit, pas des affaires de générer du 9-10% par année. Ça m'excitait pas. Mais c'est juste que avec le temps, tu te rends compte que ça marche pas. Ça veut pas dire que tu peux pas faire des transactions de day trading ou de swing pour encaisser des profits à court terme. Ça veut juste dire que tu peux pas t'enrichir avec ça. C'est pas la bourse qui va t'amener à un autre niveau. Tu sais, toutes les transactions que je fais présentement de spéculation, oui, je me sors une paye avec ça, mais ça vient du fait que j'ai le capital suffisant, nécessaire, pour être capable de me générer justement des gains qui ont de l'allure. Parce que si tu commences avec 5 ou même 10 000 piastres, essaie pas de te sortir une paye avec le day trading. La seule manière de générer des gains intéressants avec le trading, c'est d'avoir assez d'argent dans ton compte pour que ça vaille la peine. Tout ça pour dire que j'irai me voir à 23 ans, puis je m'avertirai tout de suite, je dirais, écoute, arrête de mettre des 1000 piastres là-dedans en pensant que c'est avec ça que tu vas te mettre sur la map. Malheureusement, c'est pas de même ça marche. Moi, ça m'a pris un paquet d'essais et erreurs, puis j'en ai perdu de l'argent avec le trading avant de m'en rendre compte. Fait que c'est sûr que si quelqu'un pouvait m'aviser que c'est pas quelque chose qui se fait, malgré ce qu'on voit un peu partout sur l'Internet, comme ça, je pourrais m'éviter de perdre une couple de mille dans des transactions qui ont rien donné. Et troisièmement, si je pouvais me parler quand j'étais dans début vingtaine, je me dirais de dépenser plus d'argent sur ma santé. Parce que, tu sais, toute la période de l'esthétique automobile à domicile, le 2 ans que j'étais dans le lave-auto, je faisais pas attention à ce que je mangeais. J'ai traîné une tendinite pendant des mois, je dormais des genre 5-6 heures. Mon hygiène de vie était pas bonne. Puis j'étais vraiment concentré sur ma business, à générer de l'argent. Puis en même temps, je coupais le plus de dépenses possible pour garder le plus d'argent dans mes poches. Mais tu sais, couper de l'argent sur ton alimentation, couper de l'argent sur les soins de santé, sur ton bien-être, c'est pas une stratégie gagnante. Puis tu sais, ça fait peut-être 4-5 ans que j'ai vraiment commencé à mettre plus d'argent sur ma santé. Tu sais, quand je vais à l'épicerie, là, je cherche pas la bouffe la moins chère. J'achète des légumes, j'achète des fruits, j'achète des trucs que je veux manger qui sont bons pour ma santé. Pour moi, c'est un investissement, ces dépenses-là. Tu sais, même chose, je vais au gym, je vais me faire masser une fois par mois. Tu sais, avoir mal dans le dos ou avoir quelque chose de coincé, va voir la physio, va voir une masso, peu importe. Faut que tu payes quelque part dans le temps pour être bien dans ton corps parce que tu sais, ta santé, ça devrait toujours être ta priorité. De l'argent, t'en gagnes, t'en perds. Ta santé, t'es pas né dans ton corps le restant de tes jours. Là. Fait que occupe-toi-en. En gros, même si à 23, 24, 25 ans, j'avais pas la liberté financière que j'ai aujourd'hui, c'est pas une raison de pas mettre d'argent sur sa santé. C'est pas une raison d'acheter le moins de bouffe possible pour qu'il en reste le plus ou d'acheter des cochonneries parce que tu es capable de sauver une couple de piastres. C'est vraiment pas une stratégie gagnante de négliger son alimentation puis sa santé. Fait que je reste ce discours-là pour que je commence, dès que j'ai un peu d'argent, là, dès que j'en ai un peu plus de côté, puis tu sais, l'esthétique ça roulait, le lave-auto ça roulait, j'aurais pu déjà mettre de l'argent là-dessus, mais on dirait que dans ma tête, en voulant optimiser mes finances personnelles, je voulais le plus de revenus puis le moins de dépenses possible. Donc, j'ai sacrifié mon bien-être puis mon alimentation dans le processus. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'il n'y a rien de plus important que sa santé. Fait que j'attribue un budget juste pour ça, pour pour moi, c'est vraiment rendu ma priorité. Dès que j'ai de quoi, c'est fini les cliniques sans rendez-vous. Je m'en vais dans une clinique privée. Je m'assure aussi d'avoir mon 8 heures de sommeil. C'est prioritaire à tout. C'est ce qui a le plus d'importance, quitte à repousser des mandats d'affaires. Ma priorité maintenant, c'est vraiment ma santé et c'est pas conditionnel à l'indépendance financière. Je pense que tout le monde devrait prioriser sa santé. Donc, je vais terminer l'épisode là-dessus. J'espère que vous avez apprécié le petit follow-up sur mon portefeuille, les données économiques, mais aussi les conseils que je m'aurais donné v'là 10 ans. Je pense que ça peut aider quand même un paquet de monde, surtout ceux qui sont encore dans la vingtaine. Donc, si vous appréciez le podcast, laissez un 5 étoiles sur Spotify, laissez un review sur Apple Podcasts, partagez-le. Je vous remercie de me suivre à chaque semaine et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.